Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, je vous ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé...
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas...
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
C'est le tableau du peintre hollandais Emmanuel de Witt, où l'on voit un intérieur bourgeois du XVIIe siècle et une femme, de dos, jouant de l'épinette, qui a inspiré ce premier roman de Gaël Jos, « Les heures silencieuses », paru en 2011. Magdalena, épouse de Peter van Beieren, administrateur de la Compagnie des Indes orientales, va par petites touches et demi-aveux confier à son journal intime ses joies quotidiennes et ses tourments. Son enfance, entachée d'un terrible secret, sa vie de femme d'affaires aux côtés de son père puis de son mari, ses enfants, morts et vivants, le délaissement de son époux, ses émois pour un jeune maître de musique. Nous connaîtrons alors la raison qui pousse Magdalena à tourner le dos au pinceau du peintre.
À Delft, le 12 de ce mois de novembre 1667. Je m'appelle Magdalena van Beieren, c'est moi de dos sur le tableau. Je suis l'épouse de Peter van Beieren, l'administrateur de la compagnie néerlandaise des Indes orientales à Delft, et la fille de Cornelis van Leeuwenbrück. Peter tient sa charge de mon père. J'ai choisi d'être peinte ici, dans notre chambre où entre la lumière du matin, nous avançons vers l'hiver. Les eaux de l'Oude de Delft sont bleues de gel et les tilleuls qui projettent au printemps leur ombre tachetée sur le sol ne sont aujourd'hui que bois sombre et nu. Pour oiseaux, nous n'avons que corbeaux et corneilles. Ils sont les seuls à se plaire par ce temps. Leur cri me glace et il me tarde de revoir sur les bords du canal cette couleur tendre de vert mêlé de jaune, celle des premières feuilles du printemps. La traversée de l'hiver demande patience, ce n'est qu'une saison à passer, mais je remarque, et chaque année davantage, combien l'angoisse m'étreint, sitôt disparue l'ardeur des rouges et des ors de nos mois d'automne. Cet aveu m'apaise, car nous abritons en nous quantité de souvenirs et de réflexions. Il ne se trouve personne pour les entendre, et le cœur s'étouffe à les contenir. Depuis l'enfance, je redoute la nuit. La lumière qui décroît dans le ciel, l'ombre qui tombe à terre en dévorant les couleurs et en assourdissant les formes, m'emplissent d'inquiétude. Et en dépit de l'âge qui devrait me rendre raisonnable, je ne parviens pas à faire taire cette crainte. C'est la lumière du soleil montant, celle des promesses du jour que j'ai voulu pour ce tableau. La journée n'est pas encore écrite et ne demande qu'à devenir. Ce sont mes heures préférées. J'aime leurs reflets dans le miroir de Venise où l'écho de nos silhouettes se perd dans les dorures. Ce tableau me rappelle les heures heureuses et des années où notre maison était moins riche et plus gaie. Peter aimait à m'entendre jouer de l'épinette en demeurant dans la tiédeur des draps avant de s'habiller. « La journée sera belle, mon ami, car vous avez joué pour moi. » Monsieur de Witt, le peintre, a su faire deviner sa présence derrière les courtines avec un simple vêtement et une épée posée sur un siège devant le lit. je lui sais gré de cette idée. J'ai souhaité figurer de dos sur le tableau. Une étrange requête a-t-il semblé à mon mari. Et voyant que cela me tenait à cœur, il y a finalement consenti et n'en a pas cherché les raisons. Sa demeure et ses meubles devaient être convenablement montrés. C'était là son seul vœu, le reste n'étant que bizarrerie sans conséquence. Je n'aurais pas voulu être montrée comme Rebecca Beckmann, l'épouse d'Abraham Beckmann, le banquier de la Dungerstraße, qui vient d'être peinte par M. Vermeer. On la voit affairée à peser de l'or et des perles, grosse de son 8e enfant. C'est son ventre qu'on remarque tout d'abord, on oublie presque son visage. Un détail étrange m'a frappé. Son regard est tourné vers la balance, mais si on regarde bien la scène, on s'aperçoit qu'il n'y a rien sur les plateaux. Et on ne sait ce que Rebecca regarde ainsi. C'est un bel ouvrage, je le reconnais. Le peintre a donné une grande douceur à son visage exténué par toutes ses grossesses. Il s'y entend comme nul autre à peindre les étoffes. Mais ce tableau me trouble avec cette balance vide et cette main en suspens. Quelle est cette invisible marchandise ? Air, souffle, vent. Il y a là un mystère, j'aimerais savoir lequel. Je me suis gardée de leur confier mon sentiment, car Rebecca et son époux sont heureux de ce tableau qui leur a coûté fort cher. Ils invitent toutes leurs connaissances à le contempler et à leur en faire compliment. Je me serais sentie bien coupable de troubler ce concert de louanges.
Le 13 de ce mois de novembre. L'ordre, la mesure et le travail sont des remparts contre les embarras de l'existence. C'est ce qu'on nous apprend dès l'enfance. Vanité de croire cela. Chaque jour qui passe me rappelle, si besoin était, que la conduite d'une vie n'est en rien semblable à celle d'un stock d'épices ou de porcelaine. Ce que nous tentons de bâtir autour de nous ressemble aux digues que les hommes construisent pour empêcher la mer de nous submerger. Ce sont des édifices fragiles dont se jouent les éléments. Elles restent toujours à consolider ou à refaire. Le cœur des hommes est d'une moindre résistance, je le crains.
Le 16 de ce mois de novembre. La nuit et le vent tapent au carreau. Le sommeil ne viendra pas cette nuit, je le sais. Il n'est que temps de livrer à ces pages les raisons de l'angoisse qui m'étreint au soleil descendu. Au moment où chien et loup se confondent, une terreur me saisit. Elle raccourcit mon souffle et brûle ma poitrine. Je n'ai alors de cesse de faire allumer bougies, chandelles, flambeaux et lanternes dans toutes les pièces où nous demeurons. Peter me reproche cette dépense qu'il croit dictée par la vanité d'éclairer nos richesses. Comment lui avouer que depuis trop d'années, un serment scelle mes lèvres et m'étouffe à en crier ? En dépit du temps qui a passé, seule la lumière me permet de trouver un répit et d'éloigner la vision d'épouvante qui, chaque soir, à cette heure lugubre, vient me visiter. Ce soir plus qu'un autre, je ne saurais dire pourquoi ce souvenir m'oppresse. Et je dois me délivrer de cet abcès qui m'empoisonne. Ces pages en seront le triste réceptacle. Quant au serment de silence et d'oubli que j'ai dû faire, je choisis de m'en défaire. Avec le temps, je comprends que c'était davantage la promesse contrainte d'une enfant terrorisée que le libre arbitre d'une âme éclairée. J'avais juré sur la croix et protégé un crime. De quel côté se trouve alors le péché ? Quant au serment d'oubli, en dépit du souhait que j'ai eu de le respecter, cela n'a pas été possible. Ce n'est affaire ni de désir, ni de volonté. L'affaire remonte à l'année de mes 12 ans. J'accompagnais Saskia, la jeune aide d'une quinzaine d'années de notre servante Ange. Nous étions partis visiter une de ses parentes, logeant dans un quartier éloigné d'une autre, un de ces bas quartiers aux portes de la ville, où je n'avais pas le droit de me rendre. Trop heureuse de braver l'interdit maternel et de découvrir de nouveaux aspects du monde, j'étais partie avec elle en grande joie. Nous avions tardé et risquions d'arriver à la nuit. Saskia craignait la colère de mes parents, je serais grondée, punie, et elle, certainement battue et chassée.
Sur le chemin du retour à la maison, Magdalena et la jeune servante Saskia sont témoins du meurtre d'un jeune homme. Effarée, elle n'ose pas faire un pas vers l'agonisant. Saskia, craignant d'être battue et chassée de la maison, fait prêter serment sur la croix à Magdalena de ne rien dire et de tout oublier. Ce serment aura une conséquence terrible, car une vieille femme, accusée à tort de ce crime, sera brûlée sur le bûcher.
De ce jour, la tombée du jour m'est un moment éprouvant. Je suis coupable d'un serment qui m'a liée pour le pire, faisant de moi la complice d'un mensonge et de l'exécution d'une malheureuse de la façon la plus horrible qui soit. Chaque soir, la main tendue du jeune homme assassiné, que je n'ai pas osé prendre, son regard suppliant et terrifié au seuil de la mort dont je me suis détournée, sa chemise blanche sur laquelle la tache de sang s'agrandissait à vue d'œil, le galop des meurtriers au jour déclinant, tout cela revit en moi avec une précision insoutenable. Je me sens coupable, et avoir été une enfant à cette époque n'excuse rien. Coupable de désobéissance, coupable d'avoir laissé condamner une pauvre folle solitaire incapable d'un tel geste, coupable d'avoir refusé de donner la main à un mourant, coupable d'avoir juré le silence et l'oubli. Je sais désormais qu'il faut agir selon son cœur, au plus près de ce qui nous semble juste, et ne jamais accepter ce qui nous fait violence. J'ai failli ce jour-là, et le prix de ce manquement est une croix de plomb sur mes épaules.
Le 19 de ce mois de novembre. Les hommes s'inquiètent beaucoup de leur descendance, semble-t-il. Ainsi en a-t-il été de notre père, resté sans fils. Son caractère s'en est trouvé très assombri. Les naissances successives d'Isabelle, d'Anna et de Hendrich, après celles de Judith et la mienne, ne l'ont guère réjoui, j'en fus témoin. Avec Judith, toutes deux tapis derrière une tenture, nous le guettions. Je le revois, se levant, s'asseyant et ne sachant que faire de sa personne pendant le temps des douleurs, attendant que la sage-femme paraisse sur le seuil de la chambre. Renseigné du sexe de l'enfant, il quittait la maison sans un regard pour le nouveau-né, ni pour l'accoucher épuisé, en pleurs. Il a pourtant tendrement aimé ses enfants par la suite, cédant malgré lui à leur grâce de petite fille, à leur façon charmeuse, à leurs agaceries, tout en se plaignant et faisant mine d'en rire d'être le seul homme de la maison et de devoir à chaque instant éviter les poupées et les chiffons semés dans chaque pièce comme blé de printemps. Mais parfois un mot, une phrase demeurée un pied en l'air, rappelait avec férocité sa rancœur envers notre mère, coupable de n'avoir su enfanter qu'un troupeau de juments. Lèvres pincées, le visage gris, notre mère se retirait alors en silence. On l'entendait à la cuisine houspiller la vieille Ange, notre servante, accoutumée à ces moments qu'elle laissait passer comme on regarde filer les nuages. En tant qu'aînée, j'ai occupé la place du fils manquant, du moins je le crois. Ainsi en a-t-il été jusqu'à mes fiançailles avec Peter, alors capitaine du Raven, l'un des navires de la compagnie armé pour le commerce du poivre, de la muscade, de la cannelle et de toutes ces marchandises que le monde convoite de nos jours. Ainsi, dès que j'ai su lire, écrire et compter, tout ce qui touchait à la façon d'engager ou d'emprunter l'argent, à l'entretien des navires et aux frais d'équipage, aux risques de mer, à la marche de nos comptoirs, aux prix en cours dans les magasins, à l'organisation des ventes, aux discussions avec les fournisseurs de vivres, aux bénéfices sur la cargaison, aux procès à mener contre un actionnaire déloyal de la compagnie ou un courtier indélicat, m'était aussi familier qu'une simple promenade au bord du canal.
J'étais chargée par mon père de venir l'assister au siège de la compagnie et de vérifier les commandes préparées par ses employés. Il me fallait relire les longues listes de vivres des équipages, des denrées destinées aux malades, celles qu'on nomme « rafraîchissement », faites de beurre salé, d'œufs, de volailles et de moutons sur pied avec leur fourrage, mais aussi les listes des marchandises d'envoi à l'intention de nos compatriotes installés dans les comptoirs, attendant d'être livrés en viande salée, farine, vin ou eau de vie. Je m'acquittais de mon mieux de cette tâche, trouvant un plaisir secret à songer que de ma vigilance dépendait un peu la façon dont les hommes seraient traités à bord, loin de leur foyer, sous des cieux et des climats souvent inhospitaliers. Le 21 de ce mois de novembre. Je me souviens de ce mois de janvier, nous préparions le départ de la flotte de printemps. J'avais 15 ans à peine et je m'employais, à ma très grande joie, à satisfaire la requête paternelle. Il s'agissait de relire les documents destinés aux fournisseurs. Un jour arriva où je m'étonnais de voir certaines provisions mentionnées deux fois sur deux pages différentes. Je signalai le fait à mon père, qui vint surveiller l'embarquement des vivres avec une vigilance accrue. Il découvrit que les marchandises indiquées en double étaient bien commandées et devaient être payées, mais elles n'étaient point livrées. Et la page qui doublait la commande initiale avait disparu de la liasse. Peu de temps après, nous étions demeurés seuls un soir au siège de la compagnie sur Loudkerk. Mon père s'adressa à moi avec gravité. « Je vous fais mes compliments, Magda, et je vous adresse mes remerciements. Vous avez été avisée et vigilante que ceci vous apprenne à ne pas accorder votre confiance à qui que ce soit, tant notre situation est enviée. Je connais votre cœur tendre, qui réjouit le père que je suis, mais il vous faudra toujours agir ainsi, au plus près des intérêts de notre maison. Le négoce est parfois chose difficile. Gardez la douceur de vos sentiments pour ceux de votre sang, et votre considération pour ceux de votre rang. Craignez Dieu et respectez leurs serviteurs. Pour le reste, ne baissez jamais la garde et ne cédez sur rien, jamais. Aussitôt, vous seriez dépecé. » Il s'interrompit, se leva et regarda un long moment le brouillard descendre sur le canal, revint à son bureau éclairé d'un haut candélabre à trois flammes. « Désormais, vous m'accompagnerez ici chaque semaine. »
Le 23 de ce mois de novembre. À son arrivée sur un navire, mon père était reçu comme un prince par le capitaine et l'équipage, avec les honneurs dus à son rang. Puis venait le moment de la remise du journal de bord, où tous les faits et incidents du voyage, intempéries, maladies à bord, réparations, courants marins, formes des rivages abordés, animaux ou oiseaux rencontrés sont consignés. On y trouve parfois des dessins qui montrent ce qui est difficile à expliquer, ou la description de mœurs étranges bien éloignées des nôtres. J'appris ainsi qu'à Bali, les rois prennent à 12 ans leur première épouse et qu'à l'âge de 20 ans, ils n'en ont pas moins de 200. Que d'heures ai-je passé dans ces carnets à m'en brûler les yeux et à en perdre le sommeil, transporté en des lieux que de ma vie je ne connaîtrais. Dans ces moments-là, ai-je assez maudit le sort de m'avoir fait naître fille ? Suivait une collation. Des alcools ambrés étaient servis dans des verres de cristal sortis d'un coffre d'ébène incrusté de nacre, d'ivoire ou de citronnier. J'étais quant à moi considérée comme une princesse et traitée comme telle, avec une déférence qui m'amusait sans que j'en comprenne bien la raison. Chacun se donnait du mal pour me plaire, m'amuser, m'offrir des pâtisseries, un verre de sirop ou une tasse de chocolat. Les conversations se prolongeaient, les flacons de cristal circulaient autour de la table, les hommes parlaient plus fort, fumaient la pipe. La chaleur devenait étouffante. On me faisait sortir et je me voyais confier à un officier chargé de me montrer le navire. C'est le moment que j'attendais. Je ne pensais qu'à courir sur le pont, monter et descendre en tous sens, découvrir passages et passerelles, gagner la proue, manœuvrer le gouvernail, interroger les boussoles, toucher l'acier des canons, compter les sabords, les mâts, enjamber les rouleaux de cordage, demander le nom de chaque voile, inspecter les cales, les cuisines, visiter chaque soute et m'étourdir d'odeurs inconnues. Un jour, un matelot me montra un petit singe qu'il serrait dans sa chemise. Je voulus m'emparer de l'animal. Terrorisé, il chercha à me griffer pour se défendre et grimpa prestement le long d'un mât où il demeura sans bouger. Le marin fut fouetté, car ma jeune personne était sacrée. Il n'était pas concevable qu'elle ait été exposée à un tel danger. J'étais effrayée, étourdie, enchantée. Je priais pour que cela ne finisse jamais. Du pont, je me grisais de l'agitation sur les quais, des cris, du déchargement précautionneux de toutes les richesses extraites du ventre du navire, de leur acheminement vers les longs entrepôts gardés par des soldats casqués, hallebardes au poing. On redoutait le vol et l'incendie. Et je ne crois pas que l'or de Darius ou les mines d'or du roi Salomon aient été mieux gardées. Mon père, ses entretiens terminés, me faisait chercher. Nous repartions avec les compliments des officiers, réunis autour de l'échelle de coupé, droits dans leurs sombres uniformes d'apparat à boutons d'argent, agrémentés de collerettes immaculées, chapeau bas. J'étais loin de la maison, de la tristesse dévote de ma mère, des mouchoirs à ourler, des serviettes à compter, des draps à recoudre, du linge à raccommoder, de tous ces airs entendus que prennent les femmes entre elles et qui souvent leur tiennent lieu de langage. J'étais comblée. Je vivais. Ô combien ! En devenant, malgré moi, avec mes premiers sangs, une demoiselle, j'ai dû cesser mes courses folles sur les ponts, sous les yeux de l'équipage, mi-amusé, mi-inquiet, bonnet à la main, prêt à me garder d'une quelconque chute. Instruite de la réalité du commerce et des vaisseaux, j'assistais désormais avec mon père aux conversations d'affaires dans le carré des officiers. C'est ainsi que j'ai croisé le regard de Peter van Beieren, alors capitaine en second sur le Raven. Pour la première fois, j'ai tremblé. Je me suis tue pendant tout le voyage du retour. Cela n'était pas mon habitude. Mon père avait deviné ce que j'ignorais encore.
Le 26 de ce mois de novembre. Quelques mois plus tard, il fut décidé que Peter prendrait le commandement du Harlem au prochain départ de la flotte de Noël. Le Harlem faisait route vers la Chine pour revenir les soutes remplies de soieries de porcelaines précieuses décorées d'oiseaux et de fleurs issues des grandes factoreries de Canton. Le goût était alors à ses services de table venus de la côte d'Imari, ornés de motifs, couleurs d'or et de corail, délicatement déposés sur un fond blanc, translucide, tant la matière est fine et que l'on nomme « sang et lait ». C'était une expédition de la plus haute importance et mon père en attendait grand profit. Mais dans ces contrées, les négociations se montrent parfois délicates à mener et prennent plus de temps qu'on aurait souhaité car les hanistes y imposent leurs lois. Ces marchands chinois ont l'exclusivité de l'achat des cargaisons occidentales, tout comme celle de la vente des marchandises fabriquées là-bas. Ils sont maîtres dans l'art de retarder les livraisons et de contraindre les équipages à prendre leur quartier auprès d'eux pendant d'interminables semaines dans des logements qu'ils leur louent. Ils savent attiser les convoitises et entretenir la concurrence entre les bateaux venus de nos provinces unies, de France ou d'Angleterre. À chacun, ils promettent des merveilles qu'ils proposent en fait à tous faisant croire qu'il s'agit là d'un signe faveur et font en sorte que les plus désireux de leurs biens en paient le prix le plus élevé. Ce sont des seigneurs du commerce, et chacun doit se soumettre à leur façon de faire, quelque dépit qu'on en ait. Les officiers doivent ensuite vérifier chaque objet avec soin, car, dans les derniers arrivages, quantité de défauts ont été observés sur ces pièces de porcelaine blanche et bleue qui excitent aujourd'hui les passions en Europe. Les fours là-bas cuisent nuit et jour. La ville n'est qu'un brasier, semblable à l'idée qu'on peut se faire de l'enfer, paraît-il. Mais les marchandises ne sont ni façonnées ni peintes avec le soin qu'il faudrait. Nos acheteurs s'en plaignent et trouvent là prétexte à exiger des prix moindres, malgré toute la peine prise à les satisfaire. Aussi désirions-nous acquérir des pièces de facture différentes. Ça prendrait de longs mois, c'était notre seule certitude. En ce qui concernait Peter et moi, nous serions fiancés à son retour, si tel était toujours notre vœu. On me priait d'y réfléchir.
Le 30 de ce mois de novembre, nous eûmes de belles fiançailles, et de ce jour, mon père considéra Peter comme le fils en vain espéré. Il fut décidé qu'au retour de cette traversée, il ne reprendrait pas la mer incertaine, trop risquée. Mon père l'associerait à ses affaires avant de lui céder sa charge le moment venu. J'étais pour ma part au fait de toutes les choses du commerce, cela nous fut précieux. Nous sommes devenus mari et femme dans l'année qui suivit son retour. J'avais 19 ans. Je découvris ce qu'on nomme la chair, et pour péché que ce soit, il me faut avouer ici que cette découverte me combla. J'ignorais ce qu'une femme doit attendre d'un époux, mais le contentement que j'éprouvais à m'endormir auprès de lui, sitôt nos corps délivrés du singulier mystère des gestes de la nuit, me fut une réponse suffisante. Nous nous installâmes dans cette maison, au bord du canal. Elle nous parut immense. Nos voix résonnaient dans chaque pièce avant que tapis et tentures ne viennent en étouffer l'écho. Oui, c'est dans cette chambre, où la vie me parut si douce avant de s'assombrir, que j'ai souhaité être peinte. À 16 heures, où un soleil pâle vient tiédir le sol et y tracer d'insaisissables figures de géométrie.
Le 7 de ce mois de décembre. Depuis que Peter est venu me parler le mois passé, la douleur m'égare et je me vois impuissante à y remédier. L'enfant dont j'ai accouché au début de l'automne n'a pas vécu. C'était une fille, baptisée Johanna en toute hâte. À la naissance, elle était bleue. Il s'en est fallu de peu que je la suive dans la mort, tant l'accouchement a duré et m'a fait perdre de sang. La sage-femme me croyait perdue et me pressait de prier avec elle au lieu de songer à changer mes linges en poissé de sang noir. Je ne sais ce qui s'est passé par la suite car je crois avoir perdu connaissance. J'étais vivante à mon réveil, à peine, car faible et fiévreuse, mais non point morte comme on le craignait. De longs jours se sont écoulés avant que la fièvre s'éloigne et que je revienne à la vie. J'ai dû rester alitée longtemps avant de pouvoir faire quelques pas dans la chambre, soutenue par Gertje et par Sarah. Il me semblait qu'une heure entière s'écoulait avant de parvenir à mon fauteuil, distant seulement de quelques pas, et de m'y asseoir. Un matin, je me suis sentie plus forte. Dès le lendemain, Peter m'a fait annoncer sa visite. Il est entré l'air grave et m'a fait compliment des couleurs revenues sur mon visage. Je le priais d'approcher d'un siège et de venir s'asseoir auprès de moi, mais il n'en fit rien. Il était habillé pour sortir. « Madame, j'ai à vous parler d'importance, et comme je ne sais pas envelopper mes mots de ruban, je vous parlerai simplement. J'ai cru, il y a peu, devoir vous porter en terre, et à chacun, votre rétablissement fait l'effet d'un miracle. Vous savez que j'aime à vous entretenir de mes affaires, et votre jugement, votre connaissance des questions maritimes m'importent grandement. Vous êtes une femme sensée et habile, et cela m'est précieux. Je viens vous dire la décision que j'ai prise. » Nous ne nous connaîtrons plus comme mari et femme et nous n'aurons plus commerce de chair ensemble. Une autre grossesse vous serait fatale. 5 beaux enfants nous restent, soyons-en heureux. Je ne veux plus être tentée de vous approcher, aussi ai-je décidé de ne plus entrer dans cette chambre qui demeurera la vôtre. Je vous garderai comme confidente et conseillère pour nos affaires et n'entends point risquer de vous perdre à nouveau. Ainsi en ai-je décidé, nous n'en reparlerons point. Il s'est incliné, portant ma main à ses lèvres, puis il est sorti sans un mot de plus. Ces paroles me plongent dans le plus grand désarroi, car en protégeant ma vie, elles anéantissent mon cœur. Tout le jour, toute la nuit, elles envahissent ma tête. Chaque mot est une lame, et je cherche en vain à savoir ce qu'il emporte pour Peter, de son affection pour moi ou de son intérêt. Je devrais savoir gré à mon époux d'épargner ainsi et mon ventre et ma vie. C'est la décision raisonnable autant que marque de respect quand on sait les hommes le plus souvent préoccupés de prendre leur dû sans se soucier du mal qu'ils peuvent faire. Heure après heure, je me répète cela et ne puis m'en convaincre. Je me sais déraisonnable et n'y puis rien. Plus d'une à ma place serait soulagée et bien heureuse de se soustraire à un exercice qui ne lui inspire que dégoût et grimace. Pourquoi faut-il que je sois au désespoir? Mon époux ira désormais soulager ses reins en quelques ventres de courtisane, car je ne puis concevoir qu'il renonce à la chair, et cette idée me ronge. Peu de temps après, M. De Witt est venu pour exécuter sa commande. À ce moment-là, j'ai décidé que l'on m'y verrait de dos, car, à ne plus être désiré, ai-je encore un visage?
L'année 1667 s'achève pour Magdalena, alors âgée de 36 ans, dans un sentiment d'extrême solitude. Si ces extraits vous ont donné l'envie de poursuivre la lecture de son journal intime, vous y retrouverez cette femme intelligente qui pose un regard acéré sur les rapports sociaux et la condition des femmes de son époque. Une femme qui prend position contre le commerce d'êtres humains encore pratiqué au XVIIe siècle. Une femme audacieuse qui va se lancer avec succès dans le commerce du thé avec la Chine. Il y sera aussi question d'élans entravés et de désirs interdits. Gaëlle Josse, née en 1960, a suivi des études de droit, de journalisme et de psychologie. Après avoir vécu quelques années en Nouvelle-Calédonie, elle réside actuellement à Paris où elle travaille comme rédactrice pour un site internet. Elle a publié plusieurs recueils de poésie avant d'écrire « Les heures silencieuses » paru en 2011 aux éditions Autrement. Ce premier roman fait partie de la sélection du prix lycéen Lire et Lire 2014. Deux autres romans ont suivi, Nos vies désaccordées en 2012 et Noces de neige en 2013, qui est l'un des quatre livres finalistes du prix 2014 des Bibliothèques pour tous. Dans une écriture précise et retenue, Gaëlle Josse poursuit au travers de ses romans son exploration des secrets du cœur, de l'ambiguïté des relations familiales, amoureuses, de notre désespoir ou de nos aptitudes à surmonter les trahisons ou les déceptions de la vie. Les intermèdes musicaux que vous avez entendus étaient extraits de la Pavana Lacrimae de Jan Pieterszoon Sweelinck, interprété par Glenn Wilson, et de la suite numéro 4 pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach, interprété par Jean-Guyenne Keras. Cette émission a été préparée par Gabriel et Marie. Vincent était à la technique. À bientôt sur nos ondes.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez